Bonsoir à vous tous qui écoutez La Voix de l'Amérique. Il est 13 heures à Washington. Bienvenue dans ce bulletin qui vous est présenté par Nanit Talani. Il est 19 heures à Oumoutiya et Oniipa en Namibie. Des parlementaires des deux camps rivaux libyens se retrouvent ce soir au Maroc pour un nouveau round de négociations à quelques jours d'une grande réunion en Tunisie pour tenter de sortir de l'impasse la Libye, un pays plongé dans le chaos. Après avoir abouti à un consensus sur la distribution des postes de souveraineté lors des deux premiers rounds en septembre et octobre, des représentants du Parlement de Tobrouk et du gouvernement de Tripoli se retrouvent donc à nouveau dans une station balnéaire située au sud de Rabat. Le programme de ces pourparlers et leur durée n'ont pas été précisés. La rencontre intervient deux semaines après la signature à Genève sous l'égide des Nations Unies d'un accord de cessez-le-feu permanent avec effet immédiat. L'appel à l'insurrection contre le régime du président ivoirien Alassane Ouattara, lancé de l'étranger par l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, n'aura aucun impact. C'est un non-événement, a déclaré à l'AFP Adama Big Togo, directeur exécutif du RHDP, formation du président Ouattara, qui a été réélu le 31 octobre pour un troisième mandat. Nous avons désormais une armée républicaine. Tous ces hommes de Guillaume Soro ne se reconnaissent plus en lui. Il n'a plus aucune autorité sur aucune force, a expliqué M. Big Togo, ancien allié du président Ouattara, devenu son adversaire. Guillaume Soro a lancé hier sur les réseaux sociaux un appel à l'insurrection de l'armée, de l'administration et de la population, les enjoignant de rallier le Conseil national de transition proclamé par l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État. Au Cameroun, les 11 enseignants enlevés mardi dans une école du Nord-Ouest en conflit depuis près de 4 ans ont été libérés ce jeudi sous la pression de la population locale. Le président tanzanien John Magufuli a prêté serment ce jeudi pour un second mandat à la tête de son pays après sa victoire écrasante à la présidentielle du 28 octobre que l'opposition qualifie encore de parodie de scrutin. En Égypte, un tribunal a condamné ce jeudi 59 membres présumés de la confrérie islamiste des frères musulmans à 15 ans de prison pour leur participation en 2013 à un sit-in antigouvernemental, selon des sources judiciaires. En Algérie, Lakhdar Bourega, vétéran très respecté de la guerre d'indépendance contre la France et figure de soulèvement populaire du Irak, est décédé mercredi à l'âge de 87 ans, a annoncé son fils sur sa page Facebook. L'opposant a été inhumé ce jeudi au cimetière des Sidiya à Idra, en Algérie, au milieu de centaines de personnes venues lui rendre hommage malgré les restrictions sur les rassemblements. Toujours en Algérie, face à un rebond du coronavirus, les autorités ont décidé de mettre en place un plan d'action d'urgence pour contenir la propagation du COVID-19. Pareil pour le Maroc, où l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis la mi-mars a été prolongé d'un mois pour faire face à la pandémie de nouveau coronavirus. Ici aux États-Unis, deux jours après Election Day, la population ne connaît pas encore le nom de son président qui devra prêter serment le 20 janvier, avec des résultats attendus dans des États clés dont a besoin le démocrate Joe Biden pour battre le président Donald Trump. Ce dernier conteste déjà les opérations de dépouillement en justice. La Géorgie et le Nevada pourraient peut-être achever le comptage des bulletins ce jeudi, tandis que dans l'Arizona et la Pennsylvanie, cela pourrait durer jusqu'à vendredi ou au-delà, selon certaines sources. Joe Biden, le vice-président de Barack Obama pendant 8 ans, ne doit plus gagner qu'un ou deux des derniers États clés restant en jeu pour devenir le 46e président américain, mais il s'est retenu de revendiquer la victoire. Et ce jeudi, il avait jusqu'à 253 ou 264 grands électeurs, selon que l'on inclut ou non l'Arizona. Le président du Kosovo, Hashim Thaçi, a démissionné ce jeudi pour faire face à son inculpation par le tribunal spécial de la Haye sur les crimes de guerre durant le conflit contre les forces serbes, une chute dramatique pour un homme au cœur du pouvoir depuis plus d'une décennie. Le président français Emmanuel Macron a annoncé un doublement des forces contrôlant les frontières de la France pour lutter contre la menace terroriste, les trafics et l'immigration illégale. L'ensemble du Portugal sera en état d'urgence sanitaire à partir de lundi pour au moins 2 semaines pour permettre au gouvernement de durcir les restrictions en vigueur pour endiguer la deuxième pandémie du coronavirus. C'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de l'avoir.